Ce matin, avant de commencer le message, j'ai une parole peut-être pour quelqu'un ce matin. C'est Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous allons prier. Oh oui, notre Père, merci pour Jésus-Christ, parce que son sacrifice est parfait. Nous n'avons rien à rajouter. Et merci, Seigneur, pour ce salut que tu nous as donné. Et Seigneur, nous voulons te remercier aussi parce que nous pouvons ouvrir ta parole et nous voulons apprendre de toi comment nous conduire en tant que chrétiens dans ce monde et que tu nous aides, Seigneur, dans ta grâce à apprendre de toi. Seigneur, aide-moi à transmettre fidèlement ta parole. Seigneur, nous te prions aussi pour les enfants, pour qu'ils reçoivent ta parole et que tu aides ceux qui la transmettent. Seigneur, nous t'en prions dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc nous allons continuer dans les évangiles, parce qu'on n'a pas fini. C'est vrai que on vient de faire Pâques. Il dit bon, voilà, on a fait les évangiles et on n'a plus grand chose à dire. Eh bien, il y a encore beaucoup de choses à dire. Parce que entre l'entrée de Jésus à Jérusalem, c'est vrai qu'on a vu cela, on a vu aussi comment Jésus a chassé les vendeurs du temple, comment aussi il a parlé de son autorité, parce qu'on lui posait de quelle autorité fait ces choses-là. Et la dernière fois, nous avons fait aussi une petite nuance, une petite allusion avec ce vêtement dans la parabole des noces. Et il y avait eu ce sketch des jeunes avec « ça ne suffit pas » et on avait parlé que si notre vêtement n'était pas lavé dans le sang de l'agneau, on ne pouvait pas entrer au ciel. Alors donc, il y a encore beaucoup de choses parce qu'en moins d'une semaine... Si je regarde l'évangile de Matthieu, il y a au moins 7 chapitres. Si je regarde l'évangile de Marc ou de Luc, il y a 5 chapitres jusqu'à la crucifixion. Et si je regarde le livre de Jean, il y a 8 chapitres. Donc il y a encore beaucoup de choses à apprendre avant de finir les évangiles. Donc aujourd'hui, nous sommes arrivés à un moment où Jésus, on va essayer de le surprendre avec ses paroles. Et on va lui poser des questions pièges pour essayer de tirer des paroles pour dire « Voilà, ça y est, il a dit cette parole-là, on va pouvoir le condamner. » Vous savez, à l'heure actuelle, il suffit d'une parole qui est dite avec les médias. Ça fait le tour de la planète en peu de temps. « Il a dit ça !» « Oui, oui, il a dit ça !» Et combien, bien souvent, une parole sortie de son contexte aussi crée beaucoup de problèmes et dénigre la personne. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble Luc chapitre 20. Luc 20, à partir du verset 20. Luc 20, à partir du verset 20. Luc 20, à partir du verset 20. Ils se mirent à observer Jésus et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de le livrer aux magistrats et à l'autorité du gouverneur. Ces gens lui posèrent cette question. « Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César ? » Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit, « Montrez-moi un denier. » « De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription ?»« De César, » répondirent-ils. Alors leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Il ne put rien reprendre dans ses paroles, devant le peuple. Mais étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. Donc, là, nous voyons un groupe de personnes qui va venir interroger Jésus pour savoir si on peut payer le tribut à César ou pas. Et ce groupe de personnes se comporte de deux groupes. Très intéressant, il n'y a pas un seul groupe, mais ils sont deux. Deux groupes qui se sont unis ensemble, c'est des pharisiens et des hérodiens. Les pharisiens, c'est un parti religieux et politique d'une grande influence, très attaché aux coutumes et aux traditions juives. Mais ils ne désiraient pas tellement la présence et de la domination romaine. Par contre, les hérodiens, ils formaient le parti des juifs, partisans de la dynastie hérodienne, hein, tous les rois, Hérode, Hérode le Grand, et ainsi de suite, qui étaient pour Rome. Et ces personnes, ils étaient, ces deux groupes, en fin de compte, ils n'étaient pas ensemble. Ils étaient opposés, déjà, par rapport à la domination romaine. Mais là, ils vont s'allier pour pouvoir piéger Jésus. C'était dans le but de pouvoir dire, voilà, on peut l'accuser, enfin, on va pouvoir se débarrasser de lui. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'ils s'unissent pour pouvoir faire périr Jésus. Une fois, quand Jésus a guéri un homme avec la main sèche, voyant cela, les pharisiens et les hérodiens, tout de suite après, ils ont essayé de trouver un moyen pour pouvoir faire périr Jésus. Donc vous voyez, malgré tout, voilà, deux courants qui sont opposés, mais qui se mettent ensemble pour pouvoir piéger Jésus, pour pouvoir l'arrêter, pour pouvoir lui dire, voilà, il a dit cette parole-là, maintenant il mérite la mort ou il mérite la prison. Donc, ils viennent pour lui poser cette question. Et vous savez, quand on veut poser une question et qu'on veut piéger quelqu'un, eh ben, on voit ces personnes qui vont flatter Jésus. Ils vont lui dire, lui poser cette question, « Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement, que tu ne regardes pas l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. » Ils flattent Jésus pour essayer de lui tendre un piège. Mais cette flatterie est juste. Eux, ils ne pensent peut-être pas. D'ailleurs, on pourrait se poser la question en disant, mais s'ils pensent vraiment ce qu'ils disent, pourquoi ils ne suivent pas Jésus, hein, quand il dit, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Franchement, s'ils reconnaissent que Jésus enseigne la voie de Dieu selon la vérité, pourquoi ils ne sont pas les disciples de Jésus? Mais nous savons qu'ils le font parce que pour eux, c'était, ils ne voulaient pas reconnaître l'autorité de Jésus-Christ. Leur seul but, c'était de se débarrasser de Jésus. Mais nous le sommes là. Nous croyons que Jésus parle selon la vérité. Il dit la vérité. Il est la vérité. Hein? Et nous savons, comme il est dit dans la parole de Dieu, lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Hein? Il n'est pas hypocrite. Il n'a pas un double langage. Il dit la vérité. Et combien, pour nous, pour ceux qui ont mis cette confiance en Dieu, ben, on a mis notre confiance dans ce que le Seigneur a dit. Et nous savons que notre foi est basée selon la vérité du Seigneur. Hein? Notre foi, il est dit dans Romains, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Alors ce matin, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui cherchent la vérité, un conseil, lisez la parole. Elle est digne de foi. Vous pouvez vraiment vous appuyer sur cette parole. Lisez-la et vous allez connaître la vérité. Vous allez connaître la vérité sur vous-même. Vous êtes pécheur. Mais vous allez connaître la vérité de Dieu, la solution de Dieu. Et si vous recevez cette vérité, elle va vous transformer, elle vous fera de vous une nouvelle personne. Donc voilà la question. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César. Les impôts. Jésus vient de rentrer comme roi. Alors, pour eux, ils étaient sûrs qu'ils disent non. Et c'était le moyen, parce qu'ils attendaient cela. Alors, est-il permis ou non de payer le tribut à César ? Nous savons d'après l'histoire que Israël et le peuple d'Israël étaient sous la domination romaine. Et nous savons aussi qu'à un moment donné, en l'an 6 de notre ère, il y a eu un recensement. Et ce recensement avait un but bien précis. C'était pour savoir le nombre de personnes qu'il y avait, mais aussi pour savoir au niveau de l'impôt. Et chaque personne devait un tribut par an. Et ce tribut, c'était un denier. Un denier par an qu'il devait donner à César. Donc, c'est vrai que le peuple était sous la domination donc romaine. Ils étaient sous la domination romaine parce que c'était de leur faute. Ils avaient abandonné Dieu. Et vous allez me dire, oh, bah, ils ont abandonné Dieu. Bah oui, oui et non, parce qu'en fin de compte, il y avait encore le temple, ils faisaient des sacrifices, ils observaient le sabbat, ils faisaient les fêtes. Ils faisaient toutes sortes de choses. Alors donc, dire qu'ils avaient abandonné Dieu, ah si, parce qu'on peut faire toutes ces choses et pourtant être loin de Dieu. Et c'est ce que Jésus a dit. Hein. Il dit, ce peuple m'honore d'élèves, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Donc, voyez, même si la vie religieuse continuait, ils avaient malgré tout abandonné Dieu. Et Dieu les avait livrés aux Romains. Donc ils étaient sous la domination de Rome. Et pour un juif, dire voilà, comment ça se fait? On est obligé de donner de l'argent à un roi païen, pourtant c'est notre terre, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Mais oui, mais ils étaient sous la domination romaine. Alors, Jésus va leur poser une question maintenant. Et il va leur demander, montrez-moi un denier. Et là, il leur montre un denier. Et sur ce denier, il y a la tête de César. Et il pose la question, mais c'est qui ? L'inscription, c'est César. Il faut se dire une chose, c'est que la monnaie représente l'autorité d'une nation. Et quand il y avait une effigie, ça montrait de qui on était, quelle autorité qu'il y avait sur nous. Et quelle est, on pourrait dire, oui, l'autorité, tout ce qui était... En voyant César, en fin de compte, ça veut dire qu'ils étaient sous la dépendance de César. Et c'est pour cela que Jésus dit, mais de qui ? Qui c'est ? Il dit, c'est César. Et c'est là où il y a cette fameuse phrase célèbre, hein, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Cette phrase célèbre se retrouve même dans le dictionnaire. Hein. Vous pouvez regarder, vous trouverez cette phrase dans le dictionnaire. Oh, bien souvent, on s'arrête au début. Rendez à César ce qui est à César. Le reste, on n'en parle pas. Mais on va déjà parler de cela. Rendez à César ce qui est à César. C'est très intéressant. Jésus ne dit pas payer, mais dit rendre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire rendre, ça veut dire restituer. Ça veut dire qu'ils ont une dette. Ce n'est pas un don qu'il faut à César. C'est une dette. Rendez à César ce qui est à César. Restituez. Et c'est vrai que ils avaient une dette envers le peuple romain. Grâce au pape romain, ils avaient les routes pour la libre circulation, pour le commerce. Il y avait une certaine stabilité dans le pays. Ils étaient protégés par rapport aux autres nations. Il y avait un ordre. Il y avait des magistrats. Il y avait des soldats. Donc, ils avaient une certaine sécurité. Donc, ils avaient une dette envers César. Et c'était l'impôt. Hein. Ils devaient rendre à César. En tout cas, malgré la réponse que Jésus a donnée, vous savez que le jour où ils ont livré Jésus à Pilate, et Pilate lui dit, mais pourquoi vous me livrez, Jésus? C'est très intéressant, ils disent, ils se mirent à l'accuser, disant, nous avons trouvé cet homme excitant toute notre nation à la révolte, en empêchant de payer le tribut à César. Et en se disant lui-même Christ roi. Vous voyez, même si Jésus a donné une réponse, malgré tout, vous voyez, on va l'accuser de dire, voilà, il a dit qu'il ne fallait pas payer le tribut à César. C'est quelqu'un qui veut révolter le peuple. Non, Jésus a dit, rendez à César ce qui est à César. C'est une bonne leçon pour nous. Qui de vous aime payer les impôts ce matin? Ah, personne ne lève le doigt. Hein? Et pourtant, c'est logique qu'on paye des impôts. C'est logique. Je ne fais pas un discours politique hein, ce matin. Mais c'est logique. Vous êtes bien content d'avoir des professeurs. Vous êtes bien content d'avoir des routes. Vous êtes bien content d'avoir une certaine sécurité. Un certain ordre. Imaginez-vous qu'il n'y aurait rien de tout ça, ce serait l'anarchie. Alors quand on réfléchit à cela, on dit, mais c'est quand même payer des impôts, c'est quand même, ben, je vais participer, en fin de compte, à tout le bien-être que j'ai. C'est normal que je paye des impôts. Vous voyez, c'est tout à fait normal que je paye des impôts. Parce que j'ai. C'est vrai que j'ai des droits, mais j'ai des devoirs aussi. Et le chrétien doit payer des impôts, s'il doit en payer, bien sûr. Si sa déclaration fait qu'il en paye. Mais l'apôtre Paul lui-même donne d'autres. Indication, on voit dans Romains 13, verset 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Donc voilà. Dieu est un Dieu d'ordre. Et Dieu a donné des autorités. Alors vous allez me dire, mais attendez, des serviteurs de Dieu, mais c'est des païens. Oui, c'est vrai. C'est vrai que nous sommes dans un monde, on pourrait dire, le domaine temporel et le domaine spirituel. C'est vrai que ce n'est pas Dieu qui gouverne le monde dans le sens politique. Il est au-dessus de tout. Mais on sait que le prince de ce monde, c'est Satan. Mais on voit que Dieu, il est souverain. Et c'est lui qui met en place. Même des autorités, des fois, qui nous dépassent. Et quand l'apôtre Paul a écrit cela, c'était Néron. Et je peux vous dire que Néron n'a pas été gentil avec les chrétiens. Mais pourtant, Dieu a permis. Et pour qu'il y ait de l'ordre. Et on voit que le chrétien doit agir d'une façon juste, payer l'impôt, ne pas être un révolté, hein, pas à crier à l'anarchie, mais à, au contraire, même aller plus loin, où Paul dit à Timothée, prie de prier pour les autorités. Hein, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières et des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon, agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc Dieu, il veut qu'on prie pour ses autorités, pour que Dieu leur donne la sagesse, mais aussi pour qu'ils trouvent le Seigneur. Parce que ces autorités ont besoin aussi de connaître Dieu. Et il n'y a pas que Paul qui en parle, il y a aussi Pierre qui dit « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi, comme souverain, soit au gouverneur, comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. » Donc on voit que pour un chrétien, il y a une attitude de respect par rapport aux autorités. Que ce soit de gauche ou de droite, on doit avoir du respect. Et c'est important. On doit montrer l'exemple en tant que... Hein, c'est vrai qu'on est citoyen des cieux, mais aussi on est des citoyens sur cette terre et on doit être des modèles. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a des choses quand même qu'on ne peut pas. Oui, c'est vrai. Quand c'est à l'encontre de l'autorité de Dieu. Et c'est très intéressant. Rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Il y a des choses qui sont à Dieu ne sont pas à César. Donc rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Une chose qui n'était pas juste pour César, c'était l'adoration. Adorer César comme un dieu, non. Par contre, adorer Dieu, oui. Et c'est pour cela qu'il y a des exemples dans la Bible. Bon, je pense aux trois compagnons de Daniel qui ont refusé devant Nebuchadnezzar en disant « Non, nous n'adorerons pas cette statue. » Ce n'était pas de la révolte. C'était une soumission à Dieu. Et en étant soumis à Dieu, ils ont dit « Non, on ne peut pas le faire. » Et nous savons qu'ils ont été dans la fournaise ardente et Dieu les a délivrés. Je pense aussi à Daniel, plus tard, qui était bien placé, mais le roi voulait même le mettre le premier ministre tellement qu'il était quelqu'un d'intègre, quelqu'un qui était bien, quelqu'un qui gérait bien. Mais il y avait les autres qui étaient jaloux, qui ont dit, moi, on va essayer de trouver quelque chose dans cette personne pour qu'on puisse le mettre de côté, l'éliminer. Et ils n'ont rien trouvé. Mais après, ils ont dit, ah, mais si on lui dit, si on lui interdit de prier pendant un mois. Et là, ils vont voir le roi, ils vont dire, écoute, roi, est-ce que tu veux, là, regarde ce décret, pendant un mois, que personne ne prie un autre Dieu et que les gens te prient, toi. Et le roi a signé. Mais Daniel, lui qui était fidèle au roi, a continué à prier son Dieu. Il a prié pour le roi, mais pas le roi. Hein? Très intéressant. Il a prié pour le roi, ça j'en suis convaincu, mais pas le roi. Et c'est là où il a été surpris. Et ils l'ont arrêté, ils l'ont amené vers ce roi. Et ce roi qui aimait Daniel a voulu essayer de le libérer. Et il dit, non, tu es écrit, tu es obligé. Et on sait qu'il a été livré au lion. Ce qui est très intéressant, c'est que le roi était malade par rapport à ça. Et dès le matin, il est venu. Il dit, mais... Et c'est très intéressant comme il est dit. En approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit, « Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. » Il n'y a pas de révolte dans son cœur. Hein. « Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui m'ont fait aucun mal. » Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Il n'y avait rien de mauvais. Il n'obéissait pas à cette chose-là parce que c'était contraire. Mais il n'y avait pas une attitude de révolte contre Dieu. C'est très important ça. Parce que des fois, il y a des gens qui disent, oui, mais non, je peux avoir une attitude de dire non parce que voilà, parce que la parole de Dieu le dit, mais pas une attitude de révolte vis-à-vis de l'autorité. Et nous savons comment nos frères et sœurs qui sont persécutés dans les pays où la Bible est interdite, c'est vrai, c'est pas évident, mais ils ont une soumission aux autorités, mais par rapport à l'évangile, là, ils peuvent pas. Et ils se réunissent en secret. Mais pas dans une attitude de révolte, mais dans une attitude de soumission. Alors, en tant que croyants, nous avons à faire des bonnes déclarations d'impôts. Il faut les faire. Il ne faut pas tricher. Il ne faut pas tricher. Oh, tout le monde le fait. Ça, ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait. Ah oui, mais l'État, c'est le premier voleur. Ce n'est pas votre problème non plus. Vous devez déclarer vos impôts comme vous devez le faire. Pas de toute table. Pas de travail au noir. Oui. Ah, des factures sans TVA, c'est bien. Hein? Non, on ne fait pas de facture quand on enlève la TVA. Hein? Des sous de table. Non, un chrétien ne rentre pas dans ce jeu-là. On doit être, comme on dit, on devrait être clean par rapport à cela. Donc on a un témoignage à rendre face aux autorités, à payer l'impôt. À qui vous devez l'impôt. Mais je ne voudrais pas m'arrêter là. La phrase, c'est « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. » Ah, qu'est-ce que je dois à Dieu? Très intéressant. La même image est employée. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Ah, si on est créé à l'image de Dieu, ça veut dire quoi? Comme on doit payer le tribut à César parce qu'il y avait la photo, l'effigie de César, parce que ça lui appartenait, nous, on doit rendre à César, non, on doit rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Hein? Nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons été créés par lui et pour lui. Nous sommes sa créature. Et c'est vrai que l'image de Dieu a été salie à cause du péché. Et c'est vrai que l'homme s'est révolté, a cherché son indépendance. Je ne veux pas de Dieu dans ma vie. Je veux faire ce qui me plaît. Non, c'est moi le roi de ma vie. L'homme pense qu'à son ego, rien que pour moi, rien que pour mon petit ventre. Et pourtant, c'est lui qui nous a donné le mouvement. La vie, le mouvement et l'être. Et combien nous devons reconnaître ses bienfaits. C'est vrai que quand Jésus a dit cela aux Juifs de l'époque, oui, vous devez payer l'impôt à César, mais vous devez rendre aussi à Dieu ce qui est à Dieu. Et nous savons combien il ne rendait pas à Dieu l'honneur, la gloire. C'est pour cela que dans Malachie, il est dit, un fils honore son père, un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Ou si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Il n'y avait pas cela. Même les hommes religieux cherchaient leur propre gloire, pas celle de Dieu. D'ailleurs, c'est très intéressant. Juste avant ce passage dans Luc, il nous parle de la parabole des vignerons qui ne voulaient pas redonner le fruit au propriétaire. Et quand le fils a été envoyé, il dit, bah, on va le tuer, comme ça, il n'y aura plus d'héritier et on pourra récupérer. Oui, donc, rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, on pourrait se poser quelques questions. Et je vous laisse quelques questions, c'est un travail sur vous-même que vous devez faire. Est-ce que je rends à Dieu ce qui est à Dieu? Est-ce que je l'aime de tout mon cœur, de tout mon être, de toute ma pensée? Est-ce que je me soumets et je fais sa volonté? Ou j'en fais qu'à ma tête? Est-ce que je adore lui seul ou d'autres choses ont la première place? Est-ce que je cherche sa gloire ou ma propre gloire? On a une dette grande. En plus, pour le chrétien, celui qui était racheté à un grand prix. Nous avons été rachetés à un grand prix. C'est pour ça, glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, ne le volons pas. Nos vies lui appartiennent. C'est pour ça, quand on prend ce verset, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera dans votre part un culte raisonnable. Ça va de soi. Notre corps ne nous appartient pas. Donc, cette exhortation, hein, va de soi. Nos vies lui appartiennent. C'est pour ça, offrez vos corps, vos vies au Seigneur. Une petite image aussi que je voudrais finir, c'est que le Seigneur, quand il est venu nous chercher pour nous sauver, qu'est-ce qu'il a voulu faire de nos vies? Il a voulu imprimer son image en nous. C'est pour cela qu'il est dit dans Romains 8, verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être quoi? À être semblables à l'image de son Fils. Être semblables à l'image de son Fils. Voilà l'œuvre de Dieu dans le croyant. Il veut que de plus en plus, l'image de Christ soit dans nos vies. Et pour cela, le Seigneur agit dans nos vies. Et c'est pour ça, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ça veut dire, il y a un travail. C'est vrai, il y a des fois, on passe par des épreuves. Mais Dieu fait son travail. Il nous façonne. Il est comme ce divin potier ou ce divin sculpteur. Il enlève les choses qu'il faut enlever. Même des fois, ça fait mal, c'est vrai. Mais le but du Seigneur, c'est nous transformer à l'image de son Fils. C'est formidable. Il veut faire cela. Et nous savons aussi que si nous sommes en communion avec lui, si nous sommes dans cette attitude d'adoration, d'amour vis-à-vis de lui, il est dit, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. L'œuvre de Dieu, c'est une œuvre en profondeur pour que de plus en plus le chrétien lui ressemble. Vous savez, on parle bien souvent, on dit, quand un couple s'aime vraiment, on se dit à la fin de leur vie, ils se ressemblent. Ben, le Seigneur, il veut que nos vies lui ressemblent. Ça, c'est important. Le Seigneur veut cela. Il veut que les traits de caractère soient dans nos vies. Et c'est pour cela que dans l'épître de Jean que nous étudions le jeudi soir, il est dit « Celui qui demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » On doit, quand on nous voit vivre, on doit dire « Ah, celui-là, je sais à qui il appartient. » Parce qu'il a l'image du Fils. Il est chrétien. C'est là où on pourrait se poser la question. Est-ce que je suis une vraie pièce ou une fausse monnaie? Est-ce que je suis une vraie pièce ou est-ce que je suis une fausse monnaie? Le Seigneur veut faire cette œuvre dans nos vies. Laisse-le faire. Que nous chantons souvent ce chant aussi, « Te ressembler ». Je vais vous le citer, c'est le 263. « Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. » Voilà. Et en voyant cette image de Christ en nous, on saura à qui est notre souverain, qui est notre Seigneur, qui est celui qui domine sur nous et à qui on est soumis. Prions.